Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de gaieté informative pour vous, de compétition effrénée pour eux. En effet, estimant que les journalistes d'Europe 1 se l'étaient suffisamment coulé douce ces dernières années et appliquant les consignes de notre grand patron Arnaud Lagardère,
ça va bien une connerie maintenant.
J'ai inventé le premier championnat journalistique du monde. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes de la rédaction s'affrontent au service de votre culture générale. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura offert l'info la plus étonnante, l'histoire la plus édifiante. Bref, pour reprendre le titre d'une émission chère à notre invité d'honneur aujourd'hui, nous nous demandons si à Europe 1, il y a oui ou non un incroyable talent. Bonjour Dave.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez déjà la réponse, mais je vois dans votre regard coquin que peut-être oui. Vous nous présentez aujourd'hui votre nouvel album, 8 ans après le dernier, il s'intitule « Souviens-toi d'aimer », produit par Renaud, on va en parler tout au long de ces 2 heures. Mais d'abord, je dois la vérité à nos auditeurs. Avec Dave, on se connaît un peu via un ami commun dont le nom commence par Marco et finit par Fogiel. Et ma foi, c'est toujours très gênant de recevoir quelqu'un avec qui on a passé des vacances, avec qui on a épluché des concombres, tout bien, tout honneur, je le précise d'emblée. Difficile, disais-je en préparant cette émission, de trouver la bonne distance entre les vannes qu'on se ferait dans la vie et celles qu'on peut se faire à l'antenne. Alors, mon cher Dave, pour voir jusqu'où je pouvais aller, j'ai réécouté l'interview que Marc-Olivier Fogiel avait faite de vous sur Europe 1 en 2010, à quelques heures de votre retour à l'Olympia.
Dave, l'Olympia, une soirée importante pour vous. Est-ce que c'est important parce que, en ce moment, vous faites plutôt des croisières que l'Olympia?
C'est bon d'avoir des amis comme ça, Dave. Hein. Ah, on peut
il m'a
toujours
fait pire.
Compter
il
sur
m'a
lui.
Fait pire. Hein.
C'est vrai.
Ah bah j'ai un exemple. Si vous voulez un exemple vite fait.
Ouais.
À un moment, ma maison de disque à l'époque, Warner voulait que je fasse un disque sous le nom de Dave Levenbach, mon vrai nom quoi. Et j'ai déjeuné le jour de l'enregistrement d'une émission de télé avec lui et j'ai dit, moi ça m'embête parce que ça fait c'est un côté Julie qui est devenue Julie Pietri, qui à ce moment-là a fait un tube d'ailleurs, donc elle a bien fait. Et il m'a dit, et je lui ai dit, ne me parle pas de ça. Le soir même, alors Dave, comme ça, tu te compares à Julie Pietri, direct. Et j'ai dit, quel an? Et j'ai dit, non, je ne peux pas finir le mot. Parce qu'en plus, c'est faux.
On va reparler de cet album, évidemment. Mais déjà, il me faut vous présenter les forces en présence. Ma complice, mon âme sœur et damnée à la fois. Dave, vous connaissez ma fidèle et baroque.
On ne change pas une équipe qui gagne.
Ah non, on ne commence pas à être taquin, Dave. Hein. Soyez pas cynique. Comment vous portez-vous, ma chère Eva?
Je vais très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en seul lundi.
Vous avez l'air un peu endormie, ce qui à 16h est inquiétant.
Pas du tout.
À vos côtés, deux journalistes dans les starting blocks. D'un côté, Anne Le Gall, notre spécialiste environnement, actuellement deuxième du championnat européen, mais qui pêche par une trop grande gentillesse. Il faut absolument qu'elle s'endurcisse. Allez, Anne, faites un effort. En plus, aujourd'hui, on reçoit Dave. Il adore tacler Dave. Alors, vous aussi, lâchez-vous. Vous aimez Dave?
Mais oui, mais il y a 20 ans.
Voilà, ça, c'est bon. Là, je vous trouve. Alors, avec quel sujet comptez-vous nous surprendre aujourd'hui, Anne?
J'ai une idée lumineuse. Je vais vous dévoiler le top 5 des régions qui produisent le plus d'électricité solaire en France. Et surtout, je vais vous donner une astuce pour connaître la rentabilité solaire de votre toit.
Si jamais on veut investir dans des panneaux solaires.
Exactement.
J'y pense beaucoup. C'est côté Dave. Autant vous étiez excité d'aller faire un tour du côté de chez Swan, autant je pense que vous seriez encore plus excité d'aller faire un tour du côté de chez Anissé Mbida. Ah pardon, j'oubliais. Comme l'a remarqué la semaine dernière notre invité Manu Payet, Anissé, notre expert innovation, n'aime pas qu'on dise qu'il est beau. Il est le seul informaticien à être plus sexy qu'un mannequin slip Dolce Gabbana. Je vous présente Anissé Mbida.
Ouh, mais non, mais j'aime pas être beau,
d'accord?
Désolé Anissé, c'est vrai que ça doit pas être simple d'être gaulé comme vous tous les jours. Je vous laisse vous concentrer, d'autant que vous occupez actuellement ce qu'on appelle la place du con en sport, 4e du championnat. Avec quel sujet allez-vous rebondir aujourd'hui?
Un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui et demain sont en train de passer. Aujourd'hui et demain sont... On recommence. Un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui et demain, plus de 11 000 élèves repassent leur brevet des collèges. Parce que vous savez, les épreuves ont été décalées à cause de la canicule au mois de juin. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on réfléchit à interdire toutes les montres pendant les examens et pas seulement les montres connectées.
Même une Swatch.
Même une Swatch.
Vous avez cité une marque. Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Dave qui nous accompagne cet après-midi. Plus de 50 ans de carrière, Dave, mais désormais c'est aussi...
La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mère.
extrait de ce nouvel album, Souviens-toi d'aimer. Alors, hormis un album de chansons reprises à la sauce Motown en 2011, ça faisait 13 ans que vous n'avez pas sorti de titres originaux. L'envie n'était plus là, ou bien c'est juste que les droits d'auteur, eux, étaient tellement là que finalement, vous n'aviez pas besoin de vous remettre au travail.
En tout cas, c'est une raison de rester avec mon auteur.
C'est
non, ça, on a fait une question d'envie, quoi. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses médiatiques, présenter des émissions de télé, sortir des bouquins, donc on fait de la promo, donc j'étais présent. Mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment envie, je ne voyais pas l'urgence. D'ailleurs, il y a 2-3 ans, à table avec Renaud, que je vois pas mal parce qu'on habite dans la même ville ou presque, j'ai dit, il faudrait peut-être un jour que j'y pense, et il a répondu, il a dit, lui qui était vraiment, on a l'impression qu'il n'est pas là, mais il est vachement là, il dit, ah oui, la France n'en peut plus, il s'est vraiment foutu de ma gueule. Et ça m'a un peu piqué, je dis, ah bon, tiens, on va voir ça. Et donc là, j'ai eu, pour moult circonstances, entre autres l'album de Renaud qu'il a fait, avec des gens avec qui il bosse, mais un des plus proches autour de lui est un garçon qui est un compositeur qui s'appelle Thierry Geoffroy, et il n'a pas pensé vraiment à lui demander des chansons, et ce Thierry Geoffroy était un peu dépité. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave, tu veux faire l'album de Dave. C'était vraiment une boutade, parce qu'on a tout à fait la même possibilité de vendre des disques, le même potentiel, comme on dit dans le foot. Mais on l'a fait quand même. Et là, Renaud, curieux, a dit, faites voir ce que vous faites, quoi. Faites écouter. Et il a entendu La fille aux deux papas, il dit, ça lui a plu, il va falloir entendre le reste, et il a dit, j'ai produit.
La fille aux deux papas, on peut le dire, elle est inspirée d'un ami commun,
oui,
dont on a parlé.
Oui, les enfants de Marco,
il
en a beaucoup parlé dans son livre,
il en a parlé.
Que je vous conseille vivement, si vous ne voulez pas dire autant de conneries au sujet GPA, que j'ai dit moi-même aussi, en disant, pourquoi tu n'adaptes pas,
ah oui, au début.
Au début, comme tu ne comprends pas.
Donc, on peut dire que Marco Fogel a fait changer votre regard sur le mot parentalité.
Ah, complètement, oui. Bah, surtout, je vois cette famille vivre, il vient chez moi, je le vois au bord de la piscine, je vois deux papas et deux filles dans une famille équilibrée. Heureuse.
En revanche, toujours pas le mariage gay. Hein. Vous, ça vous plaît pas trop le mariage gay.
Ah, c'est si,
pas...
si.
Pour c'est... les autres, mais pas pour vous, je veux dire.
Si Marco m'a convaincu qu'il fallait mieux pour se protéger, faire ça aussi, ne serait-ce que pour son plan héritage, le pacte, c'était pas
Il vous a convaincu surtout, là.
Quasiment.
C'est un très bon conseil.
C'est un peu mon petit frère, parce qu'il est quand même bien plus jeune que moi, même s'il est plutôt jeune.
C'est important de le rappeler aussi, qu'il est plutôt jeune, Marco.
C'est quand même un quinquin.
C'est vrai. Son nouvel album, Souviens-toi d'aimer, disponible. Dave passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire en compagnie d'anciens collègues désormais rivaux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se tirent la bourre au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Peut-être Anne Le Gall qui va vous expliquer comment calculer la puissance solaire de votre toit si vous réfléchissez à acheter des panneaux solaires. Alors a priori, on se dit que pour séduire Dave, Anis Mbida part avec un avantage. Mais tout espoir n'est pas perdu, Anne, n'est-ce pas Dave ?
Tu sais quoi ? Oui. Plus j'ai vieilli, plus j'aime les dames.
Ah, tant mieux !
J'en sors bien.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, l'émission qui en l'espace de 3 semaines a transformé une rédaction soudée en énorme foutoir continue. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent pour le prestigieux titre de chroniqueur du jour sous l'œil d'un invité habitué à défoncer les prestations de Guignol se présentant devant lui. 4 saisons de la France à un incroyable talent. Dave nous accompagne pour la sortie de Souviens-toi d'aimer, son nouvel album. On continue d'en parler ensemble, mais l'heure est à la compétition et je dirais... Méfiez-vous de l'eau qui dort. Derrière son image de spécialiste environnement avenante et gentil se cache une redoutable compétitrice. La preuve, on demandait l'autre jour à Denis Brognard s'il avait déjà connu quelque chose de plus dur que les conditions de tournage de Koh-Lanta.
J'ai bossé avec Anne Le Gall.
Anne Le Gall, de quoi vous nous parlez cet après-midi ? De panneaux solaires ?
Voilà, je vais vous dévoiler le top 5 des régions qui produisent le plus d'électricité solaire en France. Les chiffres viennent de tomber. Championne du solaire,
oui,
on pourrait dire...
Dans le sud.
On pourrait dire PACA, mais ce n'est pas PACA. Non. Ah. C'est la Nouvelle-Aquitaine qui produit 3 fois plus d'électricité solaire que la moyenne française. Ensuite, on trouve la région Occitanie. Numéro 3, donc là, sans surprise, effectivement, Eva, c'est la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Voilà, qui n'a pas de problème d'ensoleillement, contrairement aux régions suivantes, c'est un peu plus surprenant. La région numéro 4, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi championne toute catégorie des énergies renouvelables en France. Et on trouve ensuite la région Grand Est.
Ah oui.
Et voilà,
oui,
qui s'en sort bien, aussi, qui s'en sort très bien au niveau production solaire.
Mais quand on n'habite pas dans ces régions, Anne, c'est vraiment rentable d'installer des panneaux solaires sur son toit en France ?
Alors beaucoup de Français se posent effectivement cette question et c'est pour ça qu'il n'y a que 2% de l'électricité consommée en France qui vient du soleil. Et on est en retard sur les objectifs européens. Et pourtant, sachez-le, grâce à Internet et grâce à des algorithmes, il est désormais possible de savoir aujourd'hui très précisément quelle est la puissance solaire de votre toit, mais de façon hyper personnelle.
Donc, on sait combien ça va nous rapporter.
On peut savoir voilà, si une installation sur votre toit, à vous, est assez rentable, si vous allez faire des économies sur votre facture, et tout ceci sans qu'aucun technicien ne se déplace. Et bien ça, c'est la magie d'Internet et des algorithmes. Il suffit de rentrer votre adresse dans certains sites et vous obtenez, alors c'est un mélange d'algorithmes qui combine des photos satellites, donc des vues aériennes, plus des données météorologiques locales hyper pointu, plus des données cartographiques. Et tout ceci donne la rentabilité solaire de votre toit. Et ça tient même compte des ombres portées. Vous savez, s'il y a un arbre ou un immeuble près de chez vous qui vient...
Si j'installe des panneaux solaires, je coupe les arbres. Hein. Et ben voilà. Je veux maximiser mes gains.
Oui, mais l'immeuble d'à côté, vous ne pouvez pas le couper.
Mais je n'ai pas de bon rapport avec mes voisins.
Et donc,
Anne Le Gall,
ça vous donne donc
où est-ce qu'on les trouve,
ces
calculateurs?
Alors, deux sites. Une start-up française qui s'appelle In Sun We Trust. Nous croyons en le soleil. Là, c'est la pionnière du secteur. Ou bien vous avez aussi le calculateur Google qui utilise les données de Google Earth. Je précise juste que ces sites sont indépendants des installateurs. Surtout choisissez un installateur agréé et recommandé parce qu'il y a énormément d'arnaques dans ce domaine des panneaux solaires.
Dave, pour chauffer la piscine à l'Isle-sur-Sorgue, ça pourrait être bien les panneaux
en tout
solaires.
Cas, oui, moi j'ai plus de 300 jours d'ensoleillement par an. Je suis d'ailleurs surpris que le Vaucluse n'est pas dans les régions où ça fonctionne. Hein. On n'a pas seulement trop de soleil, on n'a pas assez d'eau. Donc moi ça m'arrange, j'aimerais plus avoir de l'eau que le soleil d'ailleurs.
Ouais. Il faut partir en Bretagne, Dave. Oui. Maison sur la colline. Oui.
Très content, je suis.
Non, mais sachez aussi que les Chinois ont mis au point des panneaux solaires qui marchent sous la pluie. En fait,
c'est plus le soleil. Chinois, quand même, hein.
Non, mais c'est plus le soleil en fait qui génère de l'électricité. C'est grâce au graphène, vous savez, ce matériau magique là qui permet des tas d'innovations. Ouais. En fait, la différence de charge entre la goutte de pluie et le graphène fait que quand la goutte tombe sur le panneau, ça génère de l'énergie.
Ah, je sens Anissé Abida, notre spécialiste innovation,
avoir des panneaux sous la pluie.
Je le sens sceptique. C'est l'heure de la
question
vache de notre chroniqueur. Anissé.
Anne Le Gall, je vous aime beaucoup.
Ça commence toujours mal.
Néanmoins, on parle de rentabilité des panneaux solaires. J'aimerais savoir pendant combien d'années on peut estimer aujourd'hui avoir des gains avec son panneau solaire. Est-ce qu'il a une durée de vie, le panneau solaire?
Alors, le panneau solaire a une durée de vie, tout à fait, qui peut aller de 20 à 25 ans.
Et qu'est-ce qui se passe au bout de 25 ans? Il faut les enlever?
Alors, il faudra effectivement le recycler. Mais c'est un problème dont dont l'industrie se saisit. Effectivement, on recycle de mieux en mieux les panneaux solaires au bout de 20-25 ans, qui est la durée de vie d'un panneau en général.
Donc on le jette au bout de 25 ans
on recycle les matériaux.
Ça, c'est pas terrible. Hein. Mais bien joué, c'était une bonne question perfide, comme je les aime. Merci Anne Le Gall. Votre papier aura-t-il séduit notre grand arbitre du jour, un artiste qu'on aimait déjà, mais qui se réinvente encore avec un nouvel album, Souviens-toi d'aimer. Dave est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, le sérieux éditorial du Monde diplomatique, la joie de vivre de Picsou Magazine. 2 heures de divertissement informatif pour vous, d'une sournoise compétition pour eux. Chaque après-midi, afin de vous offrir la meilleure info, les journalistes d'Europe 1 croisent le fer à coups de chronique. Qui l'emportera aujourd'hui? Vous votez via Twitter. Quant à Dave, notre invité, c'est une première. Il a déjà voté avant même la chronique d'Anissé Mbida.
Si tous les hommes avaient des formes aussi prodigieuses que les vôtres, je virerais sûrement ma cutie.
Oui, mais calmez-vous. Anissé nous parlera d'un projet de loi qui vise à interdire les montres connectées en cours et les montres tout court, si j'ai bien compris. Fini les antisèches cachés dans la trousse comme Daniel Auteuil dans Les Soudoués. Maintenant, le cauchemar des profs, c'est donc la montre. On en parle juste après le titre d'un chanteur qu'on adore ici. Voici la fille aux deux papas, Dave sur Europe.
Chaque jour elle s'éveille à la vie et elle voit tant d'amour autour d'elle qu'elle n'entend pas les voix de la rue qui proteste, qui appelle au combat, les slogans qui soulèvent un étrange débat sur le droit de vivre ou pas. Pour un enfant hors la loi, comme ils disent. Chaque jour elle avance dans la vie à grands pas et commence la danse des comment, des pourquoi. Elle apprend tous les gestes, elle découvre les mots, les élans de tendresse, tout nouveau et tout beau. Elle sourit, regardez-la, c'est la fille aux deux papas. Comme ils disent,
la petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son cœur tout est clair. Et la sainte famille Macha qui croit savoir où est le mal, où est le bien. Elle n'a rien à faire, au contraire.
s'éveille à la vie et elle voit deux regards autour d'elle qui surveillent ses pas. L'un suit une larme quand elle lui tend les bras. L'autre vendrait son âme pour son rire aux éclats. Elle grandit, regardez-la, c'est la fille de papa, comme ils disent. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas mal de mer, au contraire, dans son cœur tout est clair. Et la sainte famille Machin qui croit savoir où est le mal, où est le bien, elle en a rien à faire, au contraire, elle a tout ses repères. Elle sourit, regardez-la, la fille de papa, la petite fille de papa.
La fille aux deux papas, c'était Dave sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures d'une sanglante compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Deux heures également pour découvrir un invité vedette sous un autre angle, grâce à des interviews bien bossées, signées Bibi. Comme vendredi, lorsque face à Pascal Obispo, je me suis pris pour Lolo Boyer dans Fréquence Star. Dites-moi Pascal, ça fait quelques années qu'on se croise maintenant sur les plateaux.
Ah oui.
Il est nettement plus rock cet album-là. Il y a eu un tournant.
Oui. Non.
Aujourd'hui, c'est Dave qui nous accompagne. Bon alors Dave, je ne vais pas vous faire le coup du tournant rock, ça serait un peu gros. Mais ce nouvel album, Souviens-toi d'aimer, il marque quand même un tournant, voire une renaissance.
Pourquoi une renaissance?
Ah, ne me faites pas une Obispo. Non, il me fait une Obispo.
J'aimerais mais non,
parce
bien
que la tonalité, parce que les chansons sont très profondes.
Ouais, mais c'est-à-dire
elles abordent des thèmes de société. Ouais. Vous devenez presque un chanteur engagé.
Non, mais c'est, vous savez, il y a les tubes, évidemment, les gens souvent restent sur du côté de Siswan et Vanina, et c'est déjà pas mal. Mais dans les années 70, il y avait une chanson qui appelle toujours Tant qu'il y aura, dans laquelle on parle de l'écologie. Il y en a eu plein. Mais c'est-à-dire que les gens qui ont acheté mes albums savent que c'est pas si nouveau que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à 75 ans, on m'amène une chanson style Vanina. J'ai dit, mais ça va pas, non, je vais pas chanter ça. Évidemment, je le chanterai jusqu'à ce que mort s'en suive, mais cette chanson-là. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de chanter ça.
Cette donc, chanson, vous la Vanina, on vous la demande, j'imagine, sur scène.
Bah, évidemment.
Fois. Vous la chantez. Est-ce que vous êtes comme Michel Sardou qui dit, moi j'en ai un petit peu marre de chanter Je vais t'aimer, tout ça, ou à chaque fois vous prenez un certain plaisir, ne serait-ce que pour donner du bonheur au public?
Alors, je vais vous expliquer ce que je fais. Je suis allé voir il y a 40 ans, en plus, peut-être, Michel Polnareff, qui à ce moment-là 28, qui s'appelle Je suis un homme, et il ne le chantait pas. Et le public, à la fin, a hurlé, Je suis un homme. Donc moi, je termine sans Vanina pour être sûr que les gens font une autre. Il y a une autre raison pour le mettre à la fin, c'est tellement haut et tellement difficile à chanter que le va d'être chaude.
C'est vrai qu'elle est très dure.
Combien vous faites de galas par an? Vous avez une idée de concerts et de galas?
Est-ce que vous pensez que le percepteur est à l'écoute? Parce que
donnez-nous une version pour nous en off sur Europe 1 et une version pour le festival.
Oh, une quarantaine.
Vous dites, parce que vous avez beaucoup de recul évidemment sur le personnage que vous êtes, sur le côté bon client que vous avez, comme on dit dans les médias, vous dites tout le monde joue un rôle et vous finissez par ressembler à ce que les gens croient que vous êtes ou à ce que vous croyez que les gens pensent que vous êtes. Vous ne savez plus quand vous jouez et quand vous ne jouez plus. Lorsque je suis seul, sans doute, je continue à jouer Dave.
Oh, tout seul, je ne sais plus. Vous savez, je suis un âge, on arrête le plaisir solitaire. Donc. Je suis fatigué, moi. Voilà, ça, c'est typiquement une réponse.
Une réponse.
Et donc, quand je rentre chez moi après, comme ça, mon mec me dit « Arrête, mais tu arrêtes donc jamais. Tu fais le mariole tout le temps, ça ne lui plaît pas du tout. »
Cela dit, Dave, pour avoir passé quelques jours ensemble en vacances une fois dans notre vie, vous êtes, cela dit, exactement comme ça dans la vie. C'est-à-dire, pince sans rire, cynique. Moi, je ne trouve pas que vous jouiez un rôle particulier à la radio.
Ah non, pas cynique. J'aime pas beaucoup le mot cynique.
Non, alors comment vous définiriez?
Non, je suis caustique.
Caustique.
Caustique,
ah, extrêmement
mais caustique. Pas cynique, parce que cynique, ça me plaît moins. Même si l'étymologie du cynique, c'est être du chien, parce que ça vient du mot chien. J'ai fait du grec, il faut bien que je le monte de temps en temps.
Bien joué. On disait tout à l'heure 50 ans de carrière, le chiffre fait rêver, j'imagine, les jeunes qui débutent aujourd'hui, qui font des petites vidéos sur YouTube.
Ça fait rêver, moi j'aimerais bien avoir 25 ans et pauvre, oui, 75 avoir de l'argent.
Mais eux, ils aimeraient avoir votre carrière. Et est-ce que vous pensez que c'est encore possible, tout simplement, vu l'industrie du disque aujourd'hui, est-ce que c'est possible encore de durer sur 50 ans
en... Mais regardez un Christophe Maé, par exemple, ça fait plus de 10 ans déjà qu'il existe. Donc si on a du talent et si on trouve les chansons, le tout c'est... Dans tout ce qu'on a fait, moi je dis TTC, travail, talent, chance, mais la chance est le numéro un des trois, parce que Van Gogh avait beaucoup travaillé, beaucoup de talent, il n'a pas vendu un tableau de sa vie, donc ça existe.
Son nouvel album est donc disponible, il s'intitule Souviens-toi d'aimer. Et c'est ce que je dis souvent à Eva Rock quand elle fait des journées de 12 heures. Elle oublie. Dave est avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage se poursuit. Deux heures hybrides à mi-chemin du rire et du savoir, de la profondeur et de la légèreté. Comme si Francis Cabrel enregistrait un remix avec DJ Snake.
Ils ont refermé derrière moi. Ils ont eu peur que je recule.
Et ça, Dave, c'est pas une connerie. J'ai entendu ça cet été en boîte de nuit. Ils ont osé faire ça.
J'espère que Francis Cabrel l'a pas entendu.
Ah, j'espère que Francis, s'il nous écoute, je te fais une oreille. Bouge-toi les oreilles, Francis. Dans un instant, l'entrée en lice d'un nouveau compétiteur très attendu, spécialiste high-tech le jour, Gogo Dancer au Dirty Blue Bay la nuit. Anissé Mbida viendra nous alerter sur un nouveau phénomène qui prend de l'ampleur à l'école où de plus en plus d'élèves trichent avec leurs montres connectées. Dave, je crois que vous voulez dire quelque chose à Anissé.
Voilà.
Oui, non. Ah, ayez au moins la pudeur d'attendre la coupure pub, s'il vous plaît.
L'équipée sauvage, 16h-18h. 16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue. Deux heures pour rire et découvrir tout en savourant le plaisir sadique de voir les journalistes d'Europe 1 s'entre-déchirer avec plus de sauvagerie que les Stark et les Lannister dans Game of Thrones. Pour vous offrir l'info la plus surprenante, l'histoire la plus émouvante, celle que vous aurez hâte de raconter ce soir au dîner, il ne recule plus devant rien. Crevaison de pneus d'un collègue à l'Opinel sur le parking d'Europe 1, casier piégé au maroilles. Nos journalistes sont prêts à tout pour être élus chroniqueurs du jour, sous l'œil d'un invité arbitre dont le vote comptera triple en fin d'émission. Aujourd'hui, c'est Dave qui nous accompagne pour fêter la sortie de son nouvel album « Souviens-toi d'aimer ».
Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais. Et la mélancolie vient alors s'installer.
Cet album, il est produit par Renaud, Dave, et je crois que cette chanson est même écrite par Renaud.
Les paroles sont de Renaud, et quand on écoute bien ces paroles, on s'explique un peu mieux ses problèmes, quoi.
Exactement.
Il dit d'ailleurs lui-même qu'il a une certaine mélancolie. Mais cela dit, il a fait une déclaration d'autre jour dans une autre chanson périphérique, ça se dit plus, j'imagine.
Non, ça ne se dit plus, mais c'est délicieusement vintage.
Où il a dit, où il disait qu'il allait très bien, et c'est vrai que ça fait plus de 10 mois qu'il ne va pas, et c'est pas le même homme. C'est un vrai phénix, quoi. Et donc là, il est prêt à l'attaque, parce que l'album sort en novembre, j'ai eu le plaisir de l'entendre, il est exceptionnel.
Alors, vous savez, en France, on a pas mal de clichés, j'en ai aussi. Pour moi, l'univers de Dave et celui de Renaud, c'était pas tout à fait la même chose. Comment s'est faite la rencontre
C'est drôle, parce qu'on lit toujours des choses très sympas sur le net, et j'ai lu quelqu'un qui a dit « Renaud qui produit Dave, à quand Maître Gims va produire Mireille Mathieu ?»
Je ne serais pas allé jusque-là.
Moi, c'est Maître Gims dans l'histoire.
Oui, mais c'est ce que j'allais vous demander.
Vous êtes la modernité. Il aurait dû y avoir un duo aussi avec Renaud. J'ai lu ça quelque part. Je ne sais pas si c'est vrai.
Dans le Parisien, on lui a posé les questions. Ouais. Pourquoi cette chanson-là, on ne l'a pas fait en duo? Et il a dit, parce que Dave, il a une très jolie voix et moi, j'ai une voix pourrie. C'est lui qui le dit parce que je ne trouve pas, il a un timbre exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu le faire.
Mais alors, pour le coup, c'est vrai que vous avez une voix exceptionnelle à 75
ans. Mais surtout,
ans.
Une voix qui ne bouge pas.
Voilà, une voix qui ne bouge pas. Il y a une chanson que je vais... Attendez, je me suis notée, Pas à l'abri.
Il y a une note dans votre album. Il y a un contre tout.
Où vous avez vraiment une voix d'une clarté absolue. Ouais. Comment vous faites attention à ce que vous consommez,
autour de moi, avant de faire une explication, la voix c'est comme les cheveux. C'est dans l'ADN. Il y en a qui le perdent, il y en a qui le perdent.
C'est
pas.
Le seul point faible d'Anissé Mbida. C'est son talon d'Achille. L'avez touché.
Non, mais Jules Brenner plaisait beaucoup. Hein.
Il chantait très mal.
On continue de parler de cet album, de votre rencontre avec Renaud et donc du titre de l'album, je le rappelle, Souviens-toi d'aimer. Mais vous le savez, la compétition doit continuer. Avec un concurrent de taille. Ne lui déplaise, il fait partie de ces hommes si impressionnants physiquement qu'il pourrait dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Allez-y, Anissé.
Plus les vaches pètent, plus on a d'énergie.
N'importe quoi. Et bien, malgré tout, on continue de les trouver formidables. Anissé Mbida, vous êtes notre expert nouvelle technologie. Et cet après-midi, vous nous alertez sur un nouveau phénomène qui frappe les salles de classe.
Oui, parce qu'après les téléphones portables, après les baladeurs MP3, après les montres connectées, c'est bientôt toutes les montres, même votre vieille toquante à gousset, qui serait interdite d'entrer dans les salles d'examen. Et pourquoi ? Et parce que les dernières montres connectées, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais elles ressemblent comme de deux gouttes d'eau à des montres traditionnelles.
Ah bon ?
C'est-à-dire qu'elles sont rondes, elles sont extrêmement plates, elles ont des vraies aiguilles, parfois des aiguilles en métal. Par contre, l'écran peut quand même se transformer en écran. Enfin, le cadran peut se transformer en écran.
Et arnaquer les surveillants.
Et donc, ça devient l'anti-sèche ultime. On peut mettre des images, mettre des textes à l'intérieur. Et la plupart des montres connectées aujourd'hui sont capables de se connecter à Internet. On peut aller dans les toilettes, recevoir des SMS, même parfois passer des appels directement avec sa montre connectée.
C'est quand même pas très discret. Il reste un moment, la notion de discrétion quand même. Quand on
dans
est
les toilettes,
si on
part aux toilettes. Donc, c'est aujourd'hui, c'est devenu un véritable problème. Donc, les les enseignants, beaucoup d'enseignants se posent la question, de surveillants se posent la question aujourd'hui en disant on ne peut pas surveiller toutes les montres, on ne peut pas prendre tous les élèves et vérifier que leur montre est une montre connectée ou pas une montre connectée.
Bah, il faut déposer la
donc
montre.
Donc on supprime toutes les montres avant d'arriver dans la salle d'examen.
Et qu'est-ce qu'on risque exactement si on se fait prendre avec une montre connectée ?
Eh bien, on risque. Aujourd'hui, c'est simple, dès qu'on a une montre connectée, dès qu'on vous trouve avec une montre connectée, on considère que vous avez fraudé.
Ah oui, même si on ne sait pas si vous l'avez utilisé. Voilà. Si on oublie qu'on a sa montre connectée, qu'on
si
l'a
on
deux jours et qu'on
on
vient...
considère que vous avez fraudé. Et quand on considère quand on a fraudé, on peut avoir un blâme, on peut avoir une interdiction de passer un examen de l'éducation nationale pendant 5 ans. On peut aussi être interdit de s'inscrire dans tout établissement public pendant 5 ans. Donc c'est assez grave. Et aujourd'hui, beaucoup de gens oublient qu'ils ont une montre connectée. Pour eux, c'est une montre traditionnelle. Mais évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'avant chaque épreuve, il va y avoir un message qui va dire « Veuillez bien déposer et vos montres et vos téléphones portables à l'entrée de la salle avant de commencer. »
Il va y avoir des souvenirs à fleurs,
j'ai l'impression. Non, mais c'est parce que je sais que Dave est très ami avec Daniel Auteuil et je ne peux pas m'empêcher de...
Au Soudoué
passe le bac avec... ils avaient eu des idées farfelues pour pouvoir tricher au bac. Alors, on est bien loin de tout ça hein, avec les montres connectées. Hein.
Ah, ouais,
c'est dommage.
Effectivement, on vit une autre époque, Eva. Mais vous l'avez eu, votre bac ?
Oui, j'ai eu mon bac, ouais.
Ah, je m'étais toujours posé la question quand je vous avais recruté.
Mais je n'ai pas eu mention comme vous, voyez ?
Non, mais je n'ai pas eu de mention.
Ah bon ?
Très peu. Dave ! Les études, vous étiez un élève doué ou
J'étais un élève très dissipé, mais en fait, à un moment, j'ai compris que je ne travaillais pas beaucoup chez moi, mais au moins que j'étais très attentionné pendant les cours pour les dernières années. Et si on fait bien gaffe aux cours, on peut quand même avancer. Et j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de droit pour chanter Vanina, c'est vachement utile.
Vous croyez que c'est utile d'avoir fait Sciences Po pour raconter des conneries au micro ? C'est pareil, chacun son chemin, comme disait tonton David. On a le temps pour une petite question vache de l'autre chroniqueur. Anne, essayez d'être un peu vache, forcez-vous.
Est-ce qu'il n'est pas plus simple quand même, finalement, de construire des salles d'examen dans lesquelles il n'y a pas de réseau ?
Pour deux raisons. La première, c'est que en dehors du moment où il y a l'examen, il peut se passer, c'est un instrument pour appeler les secours. Et puis l'autre aussi, c'est que pour la petite histoire, aujourd'hui, notamment pour le bac, les académies se prêtent des détecteurs d'ondes qui passent entre les allées pour savoir s'il n'y a pas un téléphone portable ou s'il n'y a pas une montre connectée qui est restée allumée. Donc ça existe déjà, mais on ne peut pas fermer l'enceinte et la bloquer aux ondes, tout simplement parce que ça pourrait être des problèmes de sécurité s'il y a un tremblement de terre, s'il y a un accident, s'il y a un incendie, on peut appeler les secours quand même.
En plus, ça ne résout pas tous les problèmes, parce que vous avez le mode avion, même en mode avion, vous pouvez consulter vos notes, par exemple, sur une montre connectée. Donc vous pouvez vous mettre des antisèches et ça revient au même. Eh oui, Anne, quoi cette question vache n'était pas assez vache encore. Merci Anissé Mbida, votre chronique mérite-t-elle 3 points. Notre invité Dave, avec nous pour la sortie de son nouvel album Souviens-toi d'aimer, nous le dira, et certainement de manière très cash, peu avant 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Anne Le Gall, Anissé Mbida sont à mes côtés, l'équipée sauvage continue 2 heures pour enfin répondre à cette question que le DRH d'Europe 1 se pose depuis longtemps. Qui, dans cette rédaction, se donne du mal et qui, à l'inverse, n'en fout pas une rame ? Depuis la rentrée, les journalistes d'Europe 1 donnent tout pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Compétition rieuse au début, l'ivresse de la gagne est en train de mal tourner. Hein. La tension monte entre les journalistes et parfois même entre les journalistes et moi. 4 journalistes qui se sont surpassés pour vous offrir la...
Non, surpassés.
Ta gueule. Oui, parfois ça clash un peu. À suivre, on tâchera d'évacuer un peu toute cette pression avec un spectacle toujours aussi cocasse et divertissant, le moment où Eva Rock se fait détruire par l'invité à l'occasion d'un quiz. Qu'est-ce que vous faites pencher sous la table, Eva ? Qu'est-ce que vous venez de ramasser, là ?
Le concombre d'Anne.
Oui, ah, pardon, je ne savais pas comment recycler ce son. Je l'avais dans ma bibliothèque de sons. Voilà, je suis désolé.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures où humour et savoir se croisent, se frôlent, hésitent, puis finissent par se pécho à même le dance floor. Sous l'œil de notre invité d'honneur qui, heureusement, en a vu d'autres, il a connu les années 70, son nouvel album est disponible et il va vous surprendre. Dave est notre invité aujourd'hui.
Vanina.
Bon, alors ça, c'est pas le nouvel album qui va vous surprendre. Le nouvel album, c'est ça.
Repartir plus libre que l'air, devenir ces grains de poussière.
Alors, Dave, j'ai dit, je vous connais un tout petit peu, je sais qu'il y a chez vous la peur de manquer, mais entre la tournée H-Tendre et Tête de Bois et vos années incroyables talents, j'imagine que la maison de l'île sur Sorgue est remboursée maintenant.
Ah bah elle était payée par la pub du fromage.
Ça a bien payé ça. Énorme.
Énorme. Ah, ils étaient l'ambassadeur officiel pendant 3 ans de l'Office national des produits laitiers d'Hollande. Il y en avait un papier en Allemagne. Et moi j'ai fait ça. Ah oui, ça payait une grande partie de la maison. Ouais.
Alors Dave, vous êtes né à Amsterdam. Ne cédant rien à la facilité, vous me connaissez. Pour le quiz du jour, nous avons décidé de faire un vrai faux sur la Hollande, les Pays-Bas, les Néerlandais. Enfin, sachant qu'on n'a jamais vraiment compris la différence entre tout ça. Vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point.
Mais évidemment qu'il va gagner.
Mais c'est le principe de ce quiz, c'est chaque fois l'invité.
C'est voilà. Gentil, merci.
Voilà. Dave, en 2013, les médecins de l'université d'Utrecht sont tombés sur un cas étonnant. Une femme qui avait des orgasmes par les pieds. Vrai ou faux ?
Ah bah j'étais parti en 65. Donc on a égalité devant cette question. Mais c'est sûr qu'on peut prendre son pied.
Vous répondez oui, vous avez raison. Du pied gauche même. Les orgasmes duraient de 5 à 6 secondes et se produisaient 5 à 6 fois. Le cerveau avait un dysfonctionnement. Les informations venant du pied étaient interprétées comme venant du vagin.
Mais c'est horrible.
Mais ce qui est terrible, c'est la conclusion. Elle a finalement été guérie. C'est que vous voyez idiot de la guérir, parce que si on peut prendre son pied par le pied.
Mais non, mais si, parce que si à chaque fois qu'elle marchait, elle avait un orgasme, ça fait.
Imaginez, ça serait le bonheur. J'adorerais. Eva Rock, la France et les Pays-Bas ont une frontière commune. C'est le moment de visualiser une carte. Frontière commune, vrai ou faux ?
Bah non.
Non, pas de frontière commune, hein.
Bah non.
Ça serait... Mais en même temps, qu'est-ce que ça foutrait dans un quiz s'il y avait cette question ? Bah c'est vrai.
Dans les Caraïbes,
le nord de l'île de Saint-Martin est française, le sud est néerlandais. Eh ben oui, mais il fallait réfléchir, c'est ça le problème. C'est ça le problème de ce quiz, c'est qu'il faut réfléchir. Même principe, une question, 3 propositions. Gwenny et Marino sont flamands, ils ont 9 enfants et sont un peu facétieux. Qu'ont-ils fait ? 1. Ils ont tous un prénom avec juste les lettres A, X, E et L. 2. Ils ont tous appris une langue différente, du coup les dîners sont un peu compliqués. Ou 3. Ils ont tous les cheveux roses, ce qui est rigolo pour des flamands.
Non.
Alors,
non,
là tout de suite, une précision importante pour nos auditeurs qui me suivent depuis longtemps. Ça, c'est la seule partie de l'émission que je ne rédige pas, c'est le quiz. Hein. C'est une histoire de bombe piégée pour moi-même. Donc, je salue Sébastien Bordenave qui concocte ces questions.
Elle est géniale cette
question. Voilà, elle est... je ne sais pas. Alors, d'après vous...
Qu'est-ce que vous dites, Dave ?
C'est-à-dire que tant de prénoms avec Alix, Axel, etc., ça me semble compliqué. Mais si les parents sont rouquins, pourquoi ils ne seront pas rouquins ?
Ouais.
Au moins, c'est possible.
Ouais.
Donc, moi, je dirais ça.
Vous dites quoi ? Vous dites les
cheveux roses.
Les cheveux roses ? Non, les lettres dans les prénoms.
Eh bien, Eva, une fois n'est pas coutume, vous marquez un point dans cette émission.
Ah, quand même.
Le premier enfant, c'était Axel, donc assez simple. Le deuxième, Alex. Du coup, ils ont trouvé amusant de continuer. Les autres s'appellent Xal, Xela, Lexa, Xael, Xéal, Exla et Léax.
Oh,
eh oui, on embrasse les flamands. Égalité, j'aime bien quand c'est l'égalité entre Dave et Eva pour une fois, comme ça vous n'êtes pas tout à fait ridicule, c'est très bien. Son nouvel album est disponible, il s'intitule Souviens-toi d'aimer. Dave passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures d'une farouche compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter pour votre sujet préféré, sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Dave, pour l'instant, qu'est-ce que vous préférez ?
Ce que j'ai préféré, c'est le Hollandais. Bien vieux.
Oui, merci Dave. À suivre, que se passe-t-il près de chez vous ? C'est la question qu'on se pose chaque jour dans Régional Géographique. Sorties, événements, bons plans. Aujourd'hui, on ira à Toulouse pour découvrir un sport rafraîchissant, le water rugby. Juste après, une petite page musicale du meilleur goût, puisque voici Kid, Eddy de Préto sur Europe 1. Kid, c'était Eddy de Préto sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la Ligue des champions des journalistes d'Europe 1. 4 chroniqueurs en compétition, vous votez pour votre sujet préféré et à la fin, c'est Dave qui tranche. Dave, à ma comparaison, je vous ai senti frissonner, c'est vrai que vous aimez le foot ?
J'adore regarder le foot, j'en ai fait quand j'étais jeune. Ouais.
Ah, ouais. Vous avez même pratiqué le foot ?
Oui, quand j'étais encore natif, enfin je suis né à Amsterdam et avant qu'on a déménagé, j'ai joué au foot. Et j'aimais beaucoup le foot, j'aimais bien le vestiaire aussi. Mais...
vous aimez bien la troisième mi-temps. Alors quel regard vous portez sur la polémique de ces derniers jours, sur les cris, les insultes homophobes qui fusent dans les tribunes ? Il y a 2 écoles, soit ceux qui disent qu'il faut, quand on entend une insulte homophobe, arrêter le match, soit ceux qui disent qu'il faut prendre le problème en amont. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter
le
match ?
En tout cas, j'espère que ces gros cons qui font ça ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent blesser et même tuer. Ça va très très loin. Les enfants qui sont nés homo dans le 6e arrondissement de Paris, ça va peut-être aller, mais ceux qui sont nés à Angoulême, c'est plus compliqué. Et les gens ne se rendent vraiment pas compte à quel point ça peut blesser. Ce n'est pas évidemment aussi grave que les meurtres que font les maris sur leurs femmes, mais ce n'est pas loin. Donc évidemment, après, ce qu'il faut intervenir, pas intervenir, ce n'est pas me le juger. En plus, je n'ai même pas le droit de vote en France, je suis né hollandais. Je suis hollandais, je n'ai pas le droit de vote.
Vous n'êtes toujours pas naturalisé français depuis tout le temps ?
Non, mais en étant hollandais, je peux même devenir maire, mais j'aime pas déjà mal fou à devenir père. Ça, c'est une phrase de mon tour de chant. Parce que c'est faux, en plus, on ne peut pas.
Il saute aussi, c'est merveilleux. Dave est vraiment formidable. On continue de parler de sport. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Alors, ce week-end à Toulouse se déroulait la première compétition de water rugby, du rugby sur l'eau, comme son nom l'indique, Eva. Et vous vous êtes rendu sur les bords de la Garonne où se déroulait cette compétition.
Et oui, il nous fallait bien ça, hein, parce qu'ici à Toulouse, on compte les jours jusqu'au début de la Coupe du Monde de rugby vendredi. Il nous faut notre shoot d'Ovalie. Heureusement, on a été servi par cette compétition complètement délirante. Alors, il faut imaginer une barge de 1500 m² qui flotte en plein milieu de la Garonne.
Une barge avec des barges dessus, c'est ça ?
Exactement, vous ne croyez pas si bien dire. Avec une pelouse synthétique, des poteaux, jusque-là tout est
comme
classique.
Sauf
qu'il n'y a pas de touche, pas d'embut, ou plutôt s'il y en a, mais c'est dans l'eau. Écoutez Yann Delegue, ancien joueur de l'équipe de France, c'est lui qui a eu l'idée de ce sport.
J'ai fait un petit voyage en Thaïlande en famille et j'ai vu sur un petit port de pêche une plateforme flottante avec deux petites cages de foot, des gamins qui jouaient. Je dis ça y est, c'est bon, j'ai le concept. On s'est creusé la tête pendant les troisième mi-temps d'ailleurs. Il y a des fois des bonnes choses qui ressortent. Hein. Et derrière, on a créé un concept de barge, comme on dit, avec une barge. C'est un nouveau concept de rugby pour la promotion du rugby. Et le côté spectaculaire, c'est que pour marquer des essais, il faut plonger dans la Garonne. C'est la petite touche supplémentaire.
Alors ça se joue à 5 contre 5, pas de plaquage parce que la surface est un peu dure, hein. Ça se joue au toucher. Des mi-temps de 7 minutes, ça va très vite, ça court dans tous les sens. Et puis c'est l'occasion de voir jouer des stars hein, comme Thierry Dussautoir, Damien Traille ou Vincent Clerc, qui lui est carrément venu jouer en maillot de bain.
Ouh. Moi je suis le seul en maillot, ouais. On m'a pas donné de short, donc on a dit je suis le marqueur d'essai, c'est à moi de plonger. Tant qu'on se mouille, c'est qu'on a marqué. Voilà. Le fait de tomber dans l'eau, c'est assez ludique parce que c'est aussi le jeu de laisser déborder pour pousser les copains dans l'eau. Quoi, un peu. Ça fait vacances quoi.
Alors, au mot Vincent Clerc en maillot de bain, Eva Rock m'a demandé quand se tenait la prochaine édition. Parce qu'elle a visiblement très envie de venir voir ça. On risque rien se baigner comme ça dans la Garonne, Benjamin Péter. C'est pas dangereux.
Je vais être très clair, hein, Mathieu. Côté bordelais, je ne sais pas. Je ne peux répondre de rien. Je ne peux pas m'engager. Mais en tout cas, je vous assure que quand elle quitte Toulouse, elle est propre. C'est très sérieux. En tout cas, elle est analysée très régulièrement. Ce qui permet d'ailleurs de faire du ski nautique, du wakeboard en plein centre-ville. Il y a des clubs pour ça. Donc, pas de souci pour nos rugbymen aquatiques, comme Lionel Fort, ancien pilier du 15 de France, trempé après un geste technique, une très belle bombe pour marquer son essai.
C'est quand même assez rare, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Toulousains qui ont réussi à faire ça quand même. Non, c'est bien, elle est bonne, elle est goûteuse. C'est un jeu qui est quand même plaisant à voir, plutôt rapide, qui montre de belles actions.
Un sport à développer, olympique ?
Olympique, j'en sais rien. Alambic, peut-être, mais olympique, j'en sais rien.
Donc c'est pas gagné pour les JO à Paris en 2024, hein. On a compris pour le water rugby. Mais l'idée, c'est surtout de promouvoir le rugby, de donner envie d'aller regarder cette Coupe du Monde au Japon. Pour les Français, ça commence samedi. Hein. Et d'ailleurs, pour battre l'Argentine, il faudra aussi sérieusement mouiller le maillot.
Merci beaucoup pour cette découverte du water rugby. À bientôt, Benjamin Péter. Le Dave nouveau est arrivé, Eva, et il est bien meilleur que le Beaujolais. Souviens-toi d'aimer. C'est son titre. Dave est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. Vous aimez à la fois les soirées thémas d'Arte et les matchs de catch. John Coltrane et Patrick Sébastien. Vous avez sonné à la bonne porte, coupez-moi ça tout de suite. Chaque après-midi, dans une ambiance de joyeuse camaraderie, les journalistes d'Europe 1 se foutent sur la gueule au service de votre culture G. Apprendre en se mettant des nions, voilà une idée nouvelle qui pourrait faire boule de neige. À suivre, deux nouveaux concurrents, remontés comme des coucous suisses. Avec eux, on parlera de ces scénarios de science-fiction devenus vrais et de ce placement de plus en plus tentant, et ce quel que soit votre budget, l'or.
Il est l'or, monseigneur.
À tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures pour choyer vos zygomatiques sans pour autant mettre votre cerveau en veille. 4 journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Qui montera tout à l'heure, non pas sur le trône de fer, mais sur mes genoux, pour que je le coiffe de la prestigieuse couronne. Peut-être l'un de nos deux prochains concurrents, Axel de Tarlet et Nicolas Carreau, qui nous diront respectivement pourquoi il faut investir dans l'or et comment certains romans de science-fiction ont influencé le réel au point de devenir réalité. Je me risque rarement au pronostic, mais j'ai vu Nicolas Carreau avant l'émission. Il a l'air assez sûr de lui.
Et je vais vous les démonter.
Bon, restez polis avec vos collègues. Restez polis.
Europe 1,
16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour vous détendre tout en piquant votre curiosité, l'émission qui vit avec son temps. Puisqu'en effet, dans un monde ubérisé où l'on note les chauffeurs de taxi, les livreurs de pizza, il était grand temps qu'on puisse noter aussi les journalistes. Une idée vicieuse qui, je le sens, plaît à notre invité, Dave, pour son nouvel album « Souviens-toi d'aimer ». Tout se passe bien pour l'instant, Dave ?
Ça se passe globalement très très bien depuis que je suis là, en tout cas, il n'y a pas de problème d'audimat.
Et... Ah bah oui, mais on vous en remercie beaucoup, hein, surtout qu'on a les courbes en temps réel. L'effet Dave est dingue, hein, c'est incroyable. Hein, On continue de parler ensemble de cet album, mais d'abord, il me faut vous présenter deux nouveaux candidats. À ma gauche, malgré une rumeur qui bruisse dans Paris selon laquelle il aurait joué dans un porno à ses débuts pour financer son école de journalisme.
Ah non, non, un film érotique.
C'est pareil, c'est la même chose. Nicolas Caro n'en reste pas moins un critique littéraire de renom. De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Nicolas ?
J'ai pas fait d'école de journalisme et je vais parler de science-fiction.
Oui.
Parce que Dave est un fan de science-fiction.
Vous êtes sûr de ça ? Vous avez vérifié ? Oui,
oui. Dave fait oui. J'ai visité sa bibliothèque.
Exactement.
Ah, vous aviez des informations.
Bien, hein.
C'était bien son émission, Nicolas Caro ?
Ah non, lui.
Ça vaut au moins 3 points, ça.
Oui, ça vaut. Vous pouvez déguster Nicolas Caro sur Europe1.fr en vidéo. Effectivement, Dave dit vrai. À vos côtés, Nicolas, il a été conçu sur Vanina à l'arrière d'une DS. Mais il a pris le contre-pied de ses parents hippies en devenant expert économie d'Europe 1. Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour.
Il a connu dernièrement dans ce championnat quelques légers déboires face à des invités qui n'ont même pas attendu la fin de sa chronique pour lui signifier qu'il pouvait s'asseoir sur ses 3 points.
Ah oui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu par mon analyse.
Alors s'il vous plaît Dave, soyez gentil avec Axel. Au moins ne l'interrompez pas avant la fin de sa chronique. Avec quel sujet allez-vous bluffer Dave aujourd'hui?
Eh ben moi je vais vous parler de lingots d'or parce que je crois savoir aussi que...
Que Dave aime le pognon.
Je vous laisse terminer la blague, merci Mathieu. J'osais pas, j'avais peur pour mes 3 points, mais vous l'avez faite.
Réponse juste avant 18h pour connaître la chronique préférée de Dave. Alors, bon, Dave, on vous plaisante plus. Qu'on se dise, oh, c'est Dave, ou tiens, regarde Michael Douglas dans la rue, dans tous les cas, on vous reconnaît. Il y a toujours quelqu'un qui se retourne sur vous.
Oui, encore, ouais, c'est vrai.
Le taux de notoriété de Dave, je vais raconter une anecdote. C'est parti. On était en vacances avec Dave. Premier jour, je me balade tout seul avec Marc-Olivier Fogiel. Tout le monde reconnaît Marco, pas moi, évidemment. Quand je suis tout seul, parfois, on me reconnaît. Deuxième jour, Laurent Ruquier arrive. Plus personne ne reconnaît Marco ni moi, tout le monde reconnaît Laurent Ruquier. C'est parce qu'on ne peut pas reconnaître deux personnes en même temps, deux stars en même temps. Et quatrième jour, Dave arrive, on se balade tous les quatre. Plus personne ne reconnaît que Dave. C'est Dave, tout le monde voit Dave. Et occulte les autres personnes. Ça, c'est 50 ans de carrière.
Oui, sûrement, oui. Mais ça ne change pas obligatoirement en argent, justement. Parce qu'on peut très on peut avoir un côté popularité, mais ça ne veut pas dire que j'achète faux disques. Alors changez ça, chers auditeurs. Il y a un disque en vente qui est super bien.
Souviens-toi d'aimer. Renflouer les caisses de Dave. Si j'ose formuler la chose ainsi. Dave, vous parlez justement de l'argent de manière très libre. Peu d'autres artistes en parlent si librement.
Quand on parle de tout librement. Hein.
C'est vrai. Mais l'argent en France, dans le monde anglo-saxon, on parle plus facilement de son salaire.
Absolument.
Vous parlez de ça très librement. Vous avez dit que certaines émissions, vous les avez faites tout simplement pour l'argent.
Oui, mais pas aujourd'hui, par exemple.
Ah non, donc,
je veux dire par là. Le meilleur exemple, j'ai fait une fois une émission pour Arte qui était vraiment payée au lance-pierre ou pas, ouais. Mais j'avais vraiment envie de faire. Mon père, il donnait des cours. Quand il avait plein de cours, il n'avait plus envie de faire les cours. Mais sinon, il triplait de prix, il les donnait quand même. Donc, c'est-à-dire, quand tu n'as pas envie, tu te fais payer très cher. Ouais. Et quand tu as très envie, tu t'en fous que c'était bien payé.
Mais est-ce que ça veut dire que vous avez des regrets dans votre vie, des choses où vous vous êtes dit, moi, je n'aurais pas dû le faire, j'aurais dû passer mon chemin?
Non, parce que globalement, moi, j'ai des propositions, des trucs vraiment, genre Danse avec les stars. Jamais, jamais, jamais. Pour pouvoir dire, un jour, j'en ai discuté avec Régine, mais qu'est-ce que tu fais dans l'affaire ? Elle m'a dit, mais le pognon, mon chéri, il a dit quand même. Gentil. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand on a un problème de sous, ben, on accepte des choses, mais j'en ai jamais été là encore.
Alors, plus de 50 ans de carrière, on l'a dit, mais qui est pour vous, Dave ? On a posé la question dans la rue. Voici non pas un vulgaire micro-trottoir, toujours monté pour être flatteur avec l'invité, mais un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, mais sans montage. On a tout laissé.
Dave d'avant, de maintenant et toujours, mais oui. It's very famous, it's popular.
Dalida, je crois. Un truc comme ça, je crois. Non, pas Dalida, un autre truc, je sais plus ce que c'est.
Vanina. C'est ça, c'est un bel homme. Il est classe.
Il est beau, il est blond. Et vous aussi, vous êtes pas mal.
Il est toujours souriant, il s'éclate de rire facilement, je pense. C'est pas un Québécois ou... Non, il a un accent.
Tu connais Dave, toi?
Non.
Non? Il est drôle à la télé. On le voit à la télé, non? Ah, sur M6, là. Mais si!
Je suis contente qu'il y ait encore des chanteurs de cet âge-là qui sont dynamiques. C'est un mec génial.
sans trucage. Hein, bon, à part la petite taxe sur l'âge, les gens vous adorent, Dave. Vous avez non seulement un taux de notoriété énorme, mais une cote de popularité.
Oui, c'est très agréable. C'est surtout très surprenant parce que moi, je me souviens au lycée, on avait une espèce de comité pour représenter les élèves et je me suis inscrit parce qu'on vote pour moi. Quoi. Ouais. Et sur 700 voix, j'en ai eu 60.
C'est vrai?
Et j'ai donc compris à partir de ce, ma causticité ne rend pas populaire. Et après, quand j'ai devenu chanteur populaire avec Vanina et tout ça, j'ai dit, mais il faut essayer d'être à la hauteur de ça, quoi, essayer d'être sympa.
Mais voilà. Aux Pays-Bas, dans votre pays, vous êtes inconnu.
Non, je ne suis pas inconnu, je suis connu pour celui qui marche en France.
Ah, d'accord.
Et ça se bluffe, parce qu'un jour, un talk show hollandais, le mec m'a dit, comment vous pouvez vivre en France avec ces gens nombrilistes, prétentieux, arrogants? Je dis, mais je passe inaperçu.
Son nouvel album s'appelle Souviens-toi d'aimer. Dave est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et Baroque, Axel de Tarlé, Nicolas Caro sont à mes côtés, jadis amis au sein de la rédaction d'Europe 1. Ils ne peuvent plus se piffrer. Chacun rêve du titre de chroniqueur du jour. Un seul pourtant l'obtiendra, celui dont le sujet vous aura le plus intéressé. Une compétition qui, je l'avoue, ne devait être qu'un prétexte, une mécanique pour cette émission. Et qu'hélas, les journalistes d'Europe 1 prennent beaucoup trop au sérieux. Comme ce pauvre Emmanuel Duteil, chef du service éco, qui vendredi vivait très mal d'être bloqué à 2 points sur 5 participations. Ève Roger, chef du service société, était obligé de jouer les nounous.
J'en ai marre de perdre.
Mais non, mais...
Franchement, mais qu'est-ce que je peux faire pour gagner? Là, j'ai fait le cul au travail, j'y arrive jamais.
Il faut pas se traverser sa nature.
Bah non, bah attends, quand je fais le Ricard, tu me dis que c'est trop éco.
Il faut que d'abord que t'arrêtes de lire ton texte.
Mais là, je l'ai pas vraiment lu.
Il faut que tu parles à l'invité.
Mais parce que là, je voulais gagner le point de Mathieu. Je pensais que Mathieu, il allait voter pour moi.
Ce concept me dépasse totalement. Qui pleurera sur l'épaule de qui aujourd'hui? Quel sujet préférez-vous? Les conseils d'Axel de Tarlé pour investir dans l'or ou ces romans de science-fiction devenus réalité par Nicolas Caro? Suspense.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue. 2 heures de détente informative avec Eva Rock, Axel de Tarlé, Nicolas Caro et notre invité d'honneur, c'est Dave qui nous accompagne cet après-midi. La chronique qui suit va vous intéresser puisque nous allons parler pognon. Et ça, on vient d'en parler tout à l'heure, vous n'avez jamais eu de problème à en parler librement. Et ce que j'apprécie chez vous, Dave, particulièrement sur ce sujet, c'est que vous n'avez jamais profité de notre amitié pour me demander des choses.
Donne-moi 5000 euros et plus jamais de ma vie, je te demanderai quoi que ce soit.
Voici Axel de Tarlé. Oui. Alors pourquoi Beyoncé pour annoncer la chronique écho d'Axel de Tarlé? Bien, Axel m'a dit « Arrête avec le dauphin d'or, je passe pour un blaireau, essaye de me mettre plus en valeur ». En outre, après son dernier revers mercredi dernier, revers accompagné qui plus est d'un nouveau moment de solitude terrible face à l'or d'Autriche, quand l'or a félicité l'autre journaliste Alain Siroux et pas vous.
T'as été brillant Alain, comme d'habitude.
Et moi, tu me demandes pas?
Je dois dire que j'ai une relation particulière avec Alain.
Ah bah d'accord.
Vraiment, je vous demande d'encourager Axelou. Axelou qui est vraiment au fond du trou. Hein. Alors, combien de points, Axel? 7 points en 7 participations. Bon, remarquez.
Je me dis qu'il y a pire que moi, Emmanuel Duteil.
C'est vrai, il faut le citer. Emmanuel Duteil, 4 points, c'est vrai. Alors, encourageons Axel. Où Dave doit-il investir le flouze qu'il va récolter avec son album? Dites-le nous.
Dans l'or. L'or, qui est le nouveau placement vedette de cette année 2019, près de 20% de hausse depuis le début de l'année. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'or, avant, avait un énorme handicap. C'est que l'or, ça ne produisait rien. Un lingot d'or, ça n'a jamais fait de petit. Hein. Alors que si vous investissez dans des actions, dans le livret A, dans l'assurance vie, vous avez...
Tout ça ne rapporte plus rien, de toute façon.
Eh bien, voilà, vous venez de le dire. Maintenant, ça ne rapporte plus rien.
C'est pas l'or qui monte, c'est...
En fait, si vous voulez, l'or qui avait un handicap, c'est qu'il ne rapportait rien. Aujourd'hui, ce n'est plus un handicap de faire zéro, puisqu'on est dans les taux zéro. Donc, l'or a perdu ce handicap. L'or est comme les autres, maintenant. Mais l'or, maintenant, il monte pour deux autres raisons. Un, il y a beaucoup d'acheteurs, notamment en Chine, la Banque de Chine et la Banque de Russie. Parce que ces deux pays sont fâchés avec Donald Trump, sont surtout fâchés avec le dollar. Au fond,
Donald
Trump
refuge.
A tendance à utiliser le dollar comme d'une arme. N'allez pas en Iran, le premier qui utilise. Alors du coup, il y a beaucoup de pays qui en ont assez de cette domination du dollar et qui se détournent du roi dollar et mettent dans leurs réserves de l'or. Et la troisième raison, alors ça c'est la raison historique depuis des millénaires, l'or est une valeur refuge. Dès qu'il y a un pépin sur Terre, on achète de l'or en se disant, écoutez, l'or, c'est pas grand, hein, c'est un lingot, c'est grand comme un plus petit qu'un téléphone portable.
Oui, mais c'est plus lourd.
Oui, et ça vaut 45 000 euros. Dans des tas de pays, vous pouvez refaire votre vie avec 45 000 euros. Donc, d'où cette idée que si tout tourne mal, je peux m'enfuir avec un lingot d'or, je pourrais m'en sortir, je trouverai au moins quelqu'un pour acheter un steak, pour acheter à manger. Et donc, dès que ça va mal, l'or monte. Et aujourd'hui encore, vous avez vu avec l'attaque des raffineries de pétrole en Arabie Saoudite, eh bien l'or ce matin a bondi, on est passé au-delà des 1 500 $ l'once. Dès que le monde est risqué, et il est en ce moment avec un Donald Trump un peu imprévisible, vous avez l'or qui flambe.
Mais alors comment on fait? On va voir son banquier, on lui dit je veux acheter de l'or?
Ah bah oui, alors il y en a partout, hein, des boutiques qui vendent de l'or. Alors,
à la caisse d'épargne, on peut acheter de l'or?
Vous pouvez acheter de l'or, ouais. Voilà. Le lingot, je vous l'ai dit, alors bon, 44 000 euros. Vous avez aussi le gros lingot, vous savez, celui qu'on voit dans les films de 12 kilos.
Ah oui, bon. Celui dans La Soif de l'or avec Christian Clavier.
Voilà, qui est un peu plus... Lui, il vaut quand même 500 000 euros, donc il faut quand même en avoir sous le pied.
Dis donc, hein. Monsieur Télérama, moi, là. J'ai des références populaires, il regarde, il souffle.
Hit et tout ça.
Bah, moi, je pense à Christian Clavier, okay. La Soif de l'or, je vous en prie.
Voilà, et vous avez les petits lingotins de 1 gramme, ou alors, si vous avez besoin d'or, vous voyez, moi, regardez, vous pouvez défaire votre mariage et aller vendre votre propre alliance. Et après, vous allez consommer tout ça au bar. Vous avez une valeur.
Il est vraiment prêt à tout pour choper les 3 points. Voilà. Mais il nous reste.
Voilà les bons conseils.
Très bien, on salue votre femme.
La question vache de l'autre chroniqueur, Nicolas.
C'est pas vraiment une question vache, c'est une question basique. Combien pèse une once d'or?
31 grammes.
Bravo.
Et pam, à une question vache, tout de suite. La mienne retour à l'envoyé.
La mienne est plus coton.
Il est fort.
Merci beaucoup, Axel de Tarlé. Votre numéro aura-t-il séduit Dave?
On pourrait faire pour ce genre de numéro une émission qui s'appelle La France a un invisible talent.
Oh non, mais non. On avait dit pas Axel Lou, il est tout mignon, non.
Europe 1.
Vous avez eu une dure journée. Tout à l'heure, alors que vous étiez dans son bureau avec un collègue pour lui réclamer une augmentation, votre patron vous a répondu assez laconiquement
« Sortez de mon bureau, les deux tartous, tout de suite, j'ai compris !»
Requinquez-vous en écoutant Europe 1. À suivre dans L'Équipe est sauvage, quand la réalité dépasse la science-fiction. Nicolas Carreau vous fait découvrir des romans qui avaient deviné l'avenir. Eva Rock vous dit quoi regarder sur nos plateformes ce soir. Mais d'abord, si je vous dis Eva qu'on va écouter un tube énorme, qui plus est, dans une version soul particulièrement chaude.
On va finir à poil. Hein.
Ça n'engage que vous, Eva. En tout cas, voici Vanina, version soul. Dave sur Europe.
Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être Vanina, rappelle-toi
Vanina version soul, c'était Dave sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures où l'érudition la plus exigeante rencontre la gaieté la plus potache, comme quand le regretté Jean Rochefort revisitait Madame Bovary.
Emma, elle se fait chier. Donc elle commence à toucher la nouille de quelques coms qui passent.
Culture, déconne, mais aussi farouche compétition. Parmi les 4 journalistes engagés aujourd'hui, un seul sera élu chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter, sachant que la voix de notre invité arbitre vaudra triple. Dave nous accompagne aujourd'hui pour la sortie de son nouvel album « Souviens-toi d'aimer ».
Nous sommes-nous dans ce monde étrange, que deux moitiés d'une même orange, qui se cherchent inlassablement.
Alors là, on entend un titre un peu particulier, j'imagine, pour vous, Deux moitiés d'une même orange, écrit par Patrick Loiseau, qui est votre parolier, et votre compagnon depuis combien d'années maintenant, Dave, déjà
48.
48 ans. Donc j'imagine que
et
cette
c'est
chanson.
Lui qui chante, hein.
Et c'est lui qui chante, bien sûr, c'est un duo.
Ouais. C'est la première fois que vous chantez ensemble ?
Oui, le dernier aussi, parce que. Non, mais il n'aime pas, lui, il n'aime pas ça.
C'est vrai ?
Non,
c'est vous pas. Qui l'avez convaincu à faire ce titre avec vous ?
Difficilement. J'avais proposé à Zaz, elle a dit non pour faire court, et j'aime beaucoup Zaz, ouais. Et Thierry Geffroy, qui a composé la chanson, a dit pourquoi tu ne le fais pas avec Patrick ? J'ai dit why not, quoi. Donc, c'est sympa, hein, j'aime bien le résultat. Moi, j'ai fait le Bobino le 18 novembre, mm-hmm. Et il ne sera pas là. Enfin, il sera dans la salle.
Il ne montera pas pour faire le duo ?
Ah non, non. Ça lui est il est déjà totalement misanthrope.
On l'embrasse.
Est-ce qu'on peut parler d'une forme de nostalgie dans cet album ou vous n'aimez pas le mot nostalgie d'elle?
J'ai aucun problème contre moi. Je ne sais pas pourquoi en France il y a ce mot qui est mal vu. Quoi. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, je dis ça parce que les artistes, il ne faut pas leur dire ça en France. Les artistes français, vous leur dites de nostalgie. Ah non, je n'aime pas le mot nostalgie. Je parlerai plutôt de mélancolie.
Attends, quand on a 75 ans, c'est quand même plus rassurant de regarder derrière que devant. Il n'y en a pas pour longtemps. Non, non, puis ce qu'on fait là, par exemple, aujourd'hui, dans 3 semaines, oh, c'était bien cette émission, c'est déjà de la nostalgie. C'est vrai que dans la nostalgie, il y a algie qui veut dire douleur, il y a une forme de douleur, mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est hyper rassurant.
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, Dave ? Est-ce que vous passez du temps devant les écrans ? Ou vous vous en foutez complètement ?
Non, je ne m'en fous pas, parce que je regarde les films, quoi, comme tout le monde, et puis je regarde le journal. J'aime beaucoup le journal de France Info.
Selon une étude de l'Université d'Oxford, mon cher Dave, on perd en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix. Je ne sais pas si vous êtes abonné à une plateforme.
Oui, évidemment.
Évidemment. On passe 17 minutes rien qu'à choisir ce qu'on va regarder.
C'est vrai.
Et pour ensuite s'engueuler certainement en couple.
Exactement.
On vit tous la même chose.
Description de ma vie.
Exactement. De notre vie à tous aujourd'hui, hélas. Heureusement, voici 17 minutes de gagner avec Eva Rock, qui nous guide droit au but vers ce qu'il faut regarder ce soir.
Et ben justement, on va rester devant Netflix, figurez-vous, pour une nouvelle série qui s'appelle Unbelievable.
C'est Unbelievable
en 8 épisodes.
C'est une belle série, ça.
Nouvelle série qui sonne un peu comme un uppercut. Alors, Unbelievable, c'est l'histoire vraie de 2 enquêtes policières. La première qui va se révéler être un fiasco et une seconde exemplaire qui a été menée 3 ans plus tard par un duo d'enquêtrices. Tout commence en 2008. Mary, c'est une adolescente qui a été baladée de famille d'accueil en famille d'accueil, affirme avoir été victime d'un viol. La police va lui demander de raconter ce qui s'est passé, va lui redemander une deuxième fois, et puis une troisième fois, 5 fois au total, pour bien comprendre ce qui s'est passé pendant la nuit. Certaines personnes de son entourage doutent de sa parole à cette jeune fille. Résultat, énième confrontation devant 2 flics qui, eux, proposent une relecture de la fameuse agression.
Je vais vous raconter une version des faits qui, elle, tient la route. C'est d'accord ? C'est l'histoire d'une très jeune femme cabossée par une enfance épouvantable qui vit seule depuis peu, qui vient de rompre avec son petit copain. Elle se sent seule, délaissée. Et peut-être que dans un moment d'égarement, elle a imaginé une histoire pour qu'on fasse enfin attention à elle. Parce que personne n'a jamais fait attention à vous, Marie. Personne n'a jamais pris soin de vous. Personne ne vous a protégé. Et ce n'est pas de votre faute.
Et donc cette jeune fille qui est en pleurs au moment de cette confrontation avec les flics va être obligée de revenir sur son témoignage et elle avoue, elle a tout inventé. Sauf que en 2011, donc 3 ans plus tard, d'autres femmes sont violées dans les mêmes conditions à quelques milliers de kilomètres de ça. Un duo d'enquêtrices est alors en charge du dossier et pour le reste, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous dévoilerai trop l'affaire. En 2015, il y a 2 journalistes qui décident de raconter en détail ces 2 histoires, ces 2 enquêtes. Tout ça est paru sur un site d'investigation, un travail de longue haleine qui a été couronné du prix Pulitzer et qui est à l'origine en fait de cette série, puisqu'ils ont été consultés pour cette série Unbelievable. Alors est-ce qu'il faut la regarder? Eh bien mille fois oui, parce qu'alors au-delà du suspense, bien sûr, en version originale.
On n'aurait pas la voix
de Ondelat. Oui. Non, mais je vous assure, c'est vraiment mieux. Je vous la conseille parce qu'au-delà du suspense, qui est parfois à la limite du supportable, la série elle évoque aussi le statut de victime, cette difficulté qu'a l'institution policière et judiciaire, comme vous venez de l'entendre, de prendre en compte la parole des femmes. Il y est également la question des violences conjugales et plus généralement de la place de la femme dans la société. Impossible de décrocher avant la fin du 8e épisode. Moi, j'ai pas pu, vraiment. J'ai passé ma journée devant.
C'est pour ça que vous n'avez rien foutu.
Ah, bah oui, je vous confirme, c'est la série à voir sur Netflix, Unbelievable.
Et voilà, Unbelievable. 17 minutes de gagner, merci Eva Rock.
Je le dis.
Unbelievable.
Bah voilà.
Europe 1.
À suivre dans L'Équipe est sauvage, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction, mais avec les progrès technologiques, il arrive parfois désormais que la réalité dépasse aussi la science-fiction. Certains romans étaient si futuristes, si bourrés d'idées novatrices, qu'on peut même se demander dans quelle mesure ils n'ont pas influencé les scientifiques. Nicolas Carreau, le monsieur livre d'Europe 1, nous raconte, et je peux vous dire que Nicolas Carreau, c'est quelqu'un qui a le bras très long.
Je suis personnellement fan de Sylvester Stallone, je le connais très bien, je connais tous ses films, j'ai essayé de le contacter par Twitter, il n'a jamais répondu.
A tout de suite, Nicolas.
Europe 1, L'Équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, L'Équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous aimez vous cultiver avec une soirée théma d'Arte, mais vous matez en cachette les ch'tis à Mykonos parce que vous adorez voir des gens s'engueuler. L'Équipe est sauvage a été inventée pour vous. Deux heures d'une âpre compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Un seul d'entre eux sera élu chroniqueur du jour. Et vous êtes deux à décider. Vous et Dave.
Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan. Revoir mon premier amour qui me tend.
Il fait partie de nos vies depuis 50 ans, mais on apprend à mieux le connaître avec ce nouvel album.
La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son...
Souviens-toi d'aimer, c'est le titre de cet album produit par Renaud. Vous serez en concert le 18 novembre à Bobino. Eva sera là.
Mais oui.
Groupie au premier rang. On disait nostalgie, mélancolie, des mots que vous assumez totalement, il y en a dans cet album. Une réflexion sur le temps qui passe aussi, les époques qui changent. Dernièrement, on parlait de Michel Sardou tout à l'heure, il déclarait, Michel Sardou, je cite, « Je hais cette époque, je hais ce siècle, la vie est moins souple, moins détendue que dans les années 80. Les années 70-80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire, le théâtre marchait, les affaires marchaient. » Est-ce qu'il y a aussi une forme de « c'était mieux avant » chez Dave?
Oui, non, parce que je serais mort si j'étais dans une époque avant. Parce que à 75 ans déjà, je serais probablement mort. On m'a fait opérer il y a une quinzaine d'années, je me cassais la gueule sur la scène, une triple fracture. Les médecins m'ont dit qu'il y a 10 ans avant, j'aurais boité toute ma vie. J'ai été ponté en 2011. Le mec m'a dit, vous avez de la chance, parce que j'étais vraiment, vraiment coincé. Je serais mort. Je serais plusieurs fois mort déjà si je n'étais pas né dans le milieu du 20e siècle.
Quoi. Donc vous ne regrettez rien?
Non, si, je regrette les saletés dans la ville, comme tout le monde. Quoi. Il n'y a que deux choses qui me font peur dans la vie, c'est le verglas et le fanatisme religieux. Ils sont aussi dangereux l'un que l'autre.
Je vous présente à présent, mon cher Dave, un jeune homme au visage angélique. Ne vous y fiez pas. Derrière ce visage poupon, Nicolas Carreau, notre spécialiste littéraire, dissimule en fait une boule de vis. Alors, il est vrai qu'en dressant des collègues les uns contre les autres, le concept même de cette émission fait ressurgir ce qu'il y a de pire en l'âme humaine, mais Nicolas Carreau, faut pas le pousser beaucoup. Comme le pauvre Alain Sirou a pu le constater mercredi, alors qu'il était en difficulté face à Pascal Obispo dès les premières lignes de sa chronique.
On peut jouer, alors c'est pas facile quand même, parce que plus il y a de joueurs, moins on gagne, évidemment.
Eh bien ça, on a compris, oui, merci.
Peut-être arrêter la chronique ici.
Mesquinerie totale hein, de Nicolas Carreau. Fourberie. Il frappait un homme au sol, c'est dégueulasse. Mesquin, mais érudit, Nicolas Carreau, quel sujet allez-vous proposer nos auditeurs et à Dave pour tenter de l'emporter aujourd'hui.
Donc il se trouve que j'ai visité la semaine dernière la bibliothèque de Dave pour mon émission. La visite sera diffusée dimanche à 14h, je le dis en passant. Et je m'étais dit qu'il aimait la littérature pour une question idiote, c'est qu'il chantait du côté de chez Swan. Donc je me suis dit, il doit être fan de Proust. Je suis arrivé, j'ai compris tout de suite qu'il n'était pas hyper fan de Proust, mais qu'en revanche, c'était un lecteur compulsif avec des livres de fous. Il a commencé par me dire, il faut parler absolument de Paul Divoix. Vous connaissez Paul Divoix?
Non.
C'est normal, personne ne connaît,
pas
moi non
tout.
Plus. C'était l'équivalent de Jules Verne à l'époque, et chez Dave, il y a des éditions originales de Paul Divoix. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de science-fiction qu'on connaît bien, de Philip K. Dick et tout ça, mais des livres de science-fiction hyper pointus aussi. C'est un fou du domaine, et je me suis dit, parce que moi aussi j'aime beaucoup la science-fiction,
science-fiction. Et je me dis à chaque fois que je lis un livre de science-fiction des années 60-70 que les mecs avaient déjà tout prévu, quoi. Et donc, je vais vous faire la démonstration avec Jules Verne d'abord. De la Terre à la Lune, par exemple, on a envoyé finalement une fusée sur la Lune en 69. De la Terre à la Lune, ça a été écrit en 1865. À l'époque, c'était complètement inenvisageable pour les scientifiques. Pas pour Jules Verne qui l'avait prévu, même si lui, bon, il envoyait ses cosmonautes dans un obus tiré par un canon. Bon,
oui, pourquoi voilà. pas finalement
mais pourquoi pas. Plus compliqué, Minority Report de Philip K. Dick, adapté au cinéma avec Tom Cruise. Vous savez, c'est un monde dans lequel on arrête les criminels avant même qu'ils aient commis un crime, avant même qu'ils y aient pensé, parfois. Eh bien, ça existe aujourd'hui, grâce ou à cause des algorithmes. On peut prévoir à quel moment et dans quel lieu va être commis le prochain crime, si bien qu'à côté de Chicago, il y a des policiers, ils sont allés prévenir les habitants pour dire soit attention à vous parce qu'il va y avoir un crime, soit attention, ne commettez pas de crime si vous en aviez l'intention.
On ne peut pas aller jusque dans le film à arrêter la personne avant qu'elle... Évidemment, ça poserait un problème.
On y arrive doucement. Il y a les robots. Aujourd'hui, on les voit partout. Les androïdes sont hyper perfectionnés maintenant. Ils marchent, ils réfléchissent avec une intelligence artificielle. À l'ONU, on s'est même posé la question très officiellement de savoir si on pouvait autoriser un robot ou un drone à prendre la décision de tuer sur le terrain, parce qu'ils sont capables de le faire mécaniquement, physiquement. Donc
et quelle décision ont-ils prise, vous le savez, ou pas? Parce que c'est un peu inquiétant quand
pour
même.
Pour l'instant, non. Et toutes les problématiques liées aux robots, justement, de ce type-là, avaient été posées par Isaac Asimov, l'un des grands maîtres de la science-fiction, dans les années 50. Et on se souvient que dans I, Robot, adapté au cinéma aussi avec Will Smith, mais écrit par Isaac Asimov, c'était l'histoire d'un flic qui traque un robot qui est devenu assassin parce que le robot a pété un câble, littéralement. L'homme invisible de H.G. Wells, l'histoire d'un scientifique qui trouve donc le moyen de devenir invisible. Eh bien, si, on sait faire. La cape d'Harry Potter existe pour de vrai. C'est un revêtement spécial qui courbe la lumière et qui reflète le décor qui est derrière vous. Et donc, vous pouvez vous balader avec et vous serez invisible. Faut pas trop bouger.
Et
sinon...
ça coûte combien?
Ah ça, j'en sais rien. Je pense que c'est inaccessible et c'est pas encore commercialisé.
Ouais. Merci Nicolas Caro. Néanmoins, il nous reste à entendre la question vache de l'autre chroniqueur, Axel de Tarlet. Est-ce que, comme moi, vous êtes un peu dubitatif?
Non, mais c'est vrai que dans Minority Report, il y a une autre invention aussi qui existe maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Tom Cruise se bat dans une galerie marchande, il y a la reconnaissance faciale et les publicités s'adaptent au goût de Tom Cruise. Je ne sais plus quel est son nom dans le film. Eh bien, ça existe de plus en plus maintenant en Chine. Vous avez des reconnaissances faciales qui vous reconnaissent et qui vous font des pubs Budweiser si vous êtes un homme ou un parfum, enfin bref.
Oui, c'est pour ça que vous recevez tous ces mails, enlarge your penis, tout ça, c'est tout.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que sur Internet, on a des pubs personnalisées, effectivement.
Déjà. Ah, on voit c'est... sur les nets.
Convention obsèque, pour recevoir ça. Mais
15
c'est
par jour.
Ah, ouais, c'est vraiment...
C'est horrible.
Alors, on parlait de Minority Report, qui est extrait du film, du livre... de Philip K. Dick. Ouais. Ça fait chic de dire K au milieu. Il y a deux autres films de Philip K. Dick qui ont été à succès, qui ont été adaptés et qui sont devenus des grands films.
Alors, je dirais Paycheck avec Ben Affleck et Souvenir à vendre, c'est-à-dire Total Recall avec Schwarzenegger. Et puis avec Colin Farrell ensuite pour le remake.
Oula, pam!
Oula,
les trois! Alors là,
comment? Les trois pourraient-ils lui échapper?
Blade Runner, mais là, c'est vrai que je suis explosé.
Mais c'était à la fois en même temps une bonne question. Bien joué à tous les deux. Merci Nicolas Caro. Cette chronique méritait-elle 3 points, 2 points, ou comme me le suggère par SMS à l'instant Alain Sirou, 0 points? C'est dégueulasse, Alain. Laissons à notre invité le temps de la réflexion. Son nouvel album, Souviens-toi d'aimer, est disponible. Il sera en concert à Bobino le 18 novembre. Dave est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Ah, mes agneaux, est-ce qu'on n'est pas bien l'après-midi sur Europe 1 ? Vous et moi, confortablement installés, nous délectant du spectacle cocasse de ces journalistes qui se battent comme des chiffonniers pour le titre de chroniqueur du jour, le tout en compagnie d'un invité délicieux, Dave. Et justement, vous savez ce qui va se passer maintenant, mon cher Dave ?
Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu, lécher le sel de ta peau.
Ah non, pas tout à fait, c'est pas tout à fait ce qui est prévu. On va voler au secours de tous ces gens qui rentrent chez eux en ayant oublié de faire les courses pour ce soir. Ça s'appelle Delice in Extremis, et vous allez voir que pour moins de 10 euros pour deux, on peut faire des miracles. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Équipée sauvage sur Europe 1, 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures d'un pugilat sans coquille de protection entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Qui s'écharpe chaque après-midi pour vous offrir le sujet le plus marquant, l'histoire la plus édifiante, celle que vous aurez envie de raconter à table ce soir. Un seul sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil complice mais pervers de notre invité Dave, pour la sortie de son nouvel album « Souviens-toi d'aimer ».
J'ai rangé mes certitudes et mes costards cintrés.
Ça fait quelques mètres cubes de vieilles affaires classées.
Alors celle-ci, Dave, elle est très belle, mais elle est très triste, rassurez-nous. Vous n'êtes pas en train de coucher votre testament, là?
Non. Mais il ne faut pas oublier non plus que les paroles sont écrites pas par moi, elles sont écrites par Patrick Loiseau. Il y a notamment l'exemple d'une chanson qui est une de mes préférées de l'album, Quittons-nous bons amants, où je lui ai demandé l'échange à fin. C'est pas possible, ça finit sur Quittons-nous bons amants. Non. Il a juste ajouté à ma demande dans un an, dans 10 ans.
Ça c'est votre touche personnelle, sur la chanson.
Vous savez, dans Il n'y a pas d'amour heureux, François Jardis, il n'y a pas d'amour heureux. Aragon a fini par Mécène, notre amour à nous deux. C'est plus positif.
C'est vrai.
Il faut être positif.
Un petit twist positif. Eva Rock.
Une chanson, ce n'est pas forcément votre vie. Vous pouvez interpréter un personnage aussi.
Exactement. C'est ce qu'ils disent toujours. Annie Cordy n'a jamais été bonne du gré. que ce soit quoi. C'est un bon exemple.
Alors Dave, sur cet album, l'amour est très présent. Dieu aussi. La phrase, c'est vous qui m'avez dit, parce que je vais avouer mon inculture à l'antenne, vous m'avez dit « Souviens-toi d'aimer », c'est une phrase.
Oui, c'est en effet une phrase de l'abbé Pierre. Je trouve ça... Ce n'est pas la chanson le plus efficace, encore le mot efficace pour une chanson, c'est un horrible mot pour un artiste. Mais le titre est joli, quoi. N'oublie pas d'aimer, c'est important. Et n'oublie surtout pas de le dire à ceux et celles qu'on aime.
Tout à l'heure, j'ai détourné un son où vous me demandiez 5000 euros. C'est une blague, évidemment. En réalité, ce son, c'est vous demandez 5000 euros à votre père au moment de partir. Vous lui dites, je ne te demanderai plus jamais rien, mais donne-moi 5000 euros et tu vas voir, tu n'entendras plus parler.
Oui,
de moi.
Je demandais 1000 florins, donc c'est peut-être 1000 euros. Oui. C'est difficile à dire aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai demandé ça parce que je suis pas demandeur, quoi. Je suis très content du GPS parce que j'aime pas demander la route non plus, quoi. J'aime pas demander. Ouais. Donc je suis pas demandeur. C'est vrai que je pars partir beaucoup d'argent. On ne va pas pleurer, hein, ça m'en
suis
bien
sorti.
Non, mais
c'est plus la peur de manquer qui vous anime encore aujourd'hui que la soif de l'argent.
C'est peut-être très hollandais. Vous savez, en Italie, les Hollandais, NL, ils l'appellent niente lire parce qu'ils veulent rien dépenser. C'est assez joli.
Son nouvel album s'intitule « Souviens-toi d'aimer ». Il sera en concert à Bobino le 18 novembre. Dave est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour soigner votre cerveau, vos zygomatiques et aussi votre estomac. Dans un instant, délice in extremis, votre recette dernière minute, un moment qu'attend avec impatience Dave, grand cordon bleu dont j'adore cette citation, je vous cite Dave, « Il n'y a rien de plus généreux que de faire la cuisine pour quelqu'un, hormis faire jouir son partenaire avant que vous ne jouissiez vous ». Exactement, mais attention, pas dans l'assiette.
J'avais oublié que je l'avais dit, mais c'est très juste.
C'est très juste. On se retrouve dans un instant après une courte pause musicale, mais de qualité. Voici Catchy, Offenbach et Nick Waterhouse sur Europe 1. Catchy, c'était Offenbach et Nick Waterhouse sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec notre invité d'honneur Dave pour la sortie de son nouvel album Souviens-toi d'aimer, un album qui aurait pu s'appeler Souviens-toi des proportions. Car Dave, c'est une passion pour la chanson, mais aussi une passion plus approximative pour la cuisine. Passion qui vous a poussé à écrire un livre de recettes intitulé, évidemment, Cuisinez-moi. Or, un jour, Laurence Boccolini vous appelle et vous engueule. Je viens de lire ton livre de recettes et ton pain là, c'est pas un pain, c'est une crêpe. Alors vous lui dites, comment ça une crêpe? Il regarde dans le livre, effectivement, il y avait une erreur dans ce livre, c'est ça? Une erreur
de proportion. Un zéro de trop, oui.
Un zéro de trop.
Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de 40 centilitres, il y a 400 centilitres, évidemment, ça faisait un grand pot rempli de pâte à crêpes, quoi, c'est vrai. Donc maintenant, quand je fais des dédicaces, si les gens me le demandent gentiment dédicace, je corrige, et s'ils le demandent méchamment, je ne corrige pas.
Alors je vous propose de tout reprendre à zéro justement avec notre expert, il est quasiment hollandais puisqu'il est belge. Bonjour Olivier Brousse.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, bonjour Dave. Mais vous savez, mon cher Dave, je vais quand même vous rendre un tout petit peu justice parce que dans son post Instagram, Laurence Boccolini, qui veut évidemment vous tacler un peu sur cette erreur de proportion, commet elle aussi une erreur de proportion, donc c'est un partout.
Alors, Olivier, recentrons-nous, vous allez nous donner la recette du pain irlandais donc aujourd'hui, vous allez reprendre cette recette.
Ben voilà, le fameux soda bread. Alors c'est un pain assez fantastique parce qu'il a l'avantage de ne pas nécessiter l'utilisation de levure ou de levain et donc pas de temps de pousse. C'est un pain qui va pousser instantanément au moment de la cuisson dans votre four. Donc vous pouvez même encore le faire là dans l'heure qui vient pour le manger ce soir. C'est vraiment un pain facile, rapide et on va dire pratiquement inratable si on a les bonnes proportions.
Ah ben, alors justement, on vous écoute, la France est tout ouïe.
Alors pour ce fameux soda bread, il vous faut donc bel et bien 500 g de farine. Alors moi je vous recommande de prendre moitié farine blanche et moitié farine complète. Ça aura plus de goût, c'est meilleur, puis c'est même meilleur pour la santé aussi. Alors la proportion du fameux lait ribot. Alors qu'est-ce que c'est que le lait ribot? C'est du lait fermenté, on trouve ça aujourd'hui en grande surface ou dans les magasins bio, c'est très facile à trouver. Il en faut effectivement entre 40 et 45 centilitres, c'est-à-dire environ un demi-litre. parce qu'à 400, effectivement, c'est mieux pour faire des crêpes. Il vous faut une pincée de sel et, très important, il vous faut aussi une cuillère à soupe environ de bicarbonate, parce que c'est la combinaison du bicarbonate et du lait ribot qui va permettre au pain de gonfler au moment de la cuisson. Ce qui est très important, c'est la cuisson de ce pain. Et la cuisson du pain, en fait, il faut très rapidement arriver à le chauffer de manière à faire la croûte et ensuite que l'intérieur cuise. Donc on démarre avec un four très chaud. Et moi, je mets même le four un peu plus chaud que ce que vous préconisez, Dave. Moi, je le mets carrément à 250.
250 ?
Ah oui, c'est énorme. Mettez le four à fond. Et la petite astuce, le vrai secret, c'est de mettre de l'humidité dans votre four. Donc avant d'enfourner le pain, vous allez asperger un tout petit peu d'eau, si vous avez un petit vaporisateur, pour créer une ambiance humide et ça va permettre d'avoir encore une meilleure cuisson de votre pain. Donc vous démarrez avec un four à 250 ou 230, suivant le modèle de four que vous avez, environ un quart d'heure. Et après, vous baissez la température, vous la descendez à 200 et vous finissez la cuisson pendant 20 minutes encore. Bon, globalement, la cuisson dure une quarantaine de minutes pour le pain.
Dave, est-ce que vous validez cette recette ?
Complètement, bravo.
Poul, ça a bien bossé alors.
Et en plus, il faut quand même dire que les Belges étaient hollandais jusqu'à 1836. Non, mais franchement.
C'est vrai. Et moi, j'ai encore quelques souvenirs de vacances passées en Hollande. Je vous raconterai ça un autre
oui,
jour.
Oui, ça vaut mieux.
Oui, on va les quartiers où vous étiez.
Question gastronomie, c'est pas là que j'ai puisé vraiment mon inspiration.
Merci Olivier Poul, ce qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Eva, une colle, histoire de voir si vous suivez. Quand Dave sera-t-il en concert à Bobino ?
Le 18 novembre.
Bien joué. Dave est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Votre pouls s'accélère, des giclées d'adrénaline vous agitent, des spasmes d'excitation.
Ah ouais.
Encore quelques secondes de patience. Des giclées d'adrénaline.
Ouais, c'est bon.
Encore quelques secondes de patience et vous saurez qui a remporté la grande compétition des journalistes d'Europe 1. Bref, un scoop énorme.
C'est comme si des paparazzis avaient surpris le pape dans un bordel.
La comparaison est osée, mais elle est juste.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et nous entrons dans cette séquence qui est à l'émission ce que l'orgasme est au rapport sexuel. Un dénouement trop précoce pour les uns, trop tardif pour les autres. Comme le malicieux Denis Brognard l'insinuait jeudi dernier au détour d'une réflexion innocente d'Eva.
26 minutes, en plus c'est court.
On peut déjà récupérer 26 minutes, c'est court.
Ah merde.
Denis travaille pour moi. Une fois de plus, dans le combat farouche qui les a opposés, les journalistes d'Europe 1 ne se sont pas économisés. Qui va l'emporter aujourd'hui ? Anne Le Gall, Anis Mbida, Nicolas Carreau ou Axel de Tarlé, Eva Roque ? Quel est le vote du public via Twitter ?
Eh bien, c'est Nicolas Carreau qui remporte les deux points avec 37% yes du vote du public.
Nicolas Carreau, ouais, pour sa chronique sur la science-fiction qui s'incarne dans la réalité. Comment on pourrait dire ça, Nicolas ? Je ne
qui
trouve pas la phrase, donc aidez-moi.
Qui devient réalité,
tout simplement. On voit que vous n'êtes pas spécialiste littéraire pour rien, Nicolas. C'est très impressionnant. Pour ma part, je donne mon point à Anne Le Gall, car j'ai envie d'installer des panneaux solaires.
Merci,
oui, mais c'est vrai,
et
c'est très pratique. Mais le moment est venu pour notre invité d'honneur, Dave, aujourd'hui, de nous dire qui il a préféré. Je vous rappelle que votre voix compte triple.
Très compliqué, parce que les quatre sujets étaient passionnants. Ils m'intéressaient tout spécialement pour ma maison dans le sud, pour l'or, parce qu'évidemment, étant hollandais, ça m'intéresse, la littérature aussi, et puis l'aspect physique, on ne devrait pas en tenir compte.
Non,
on ne devrait pas. Sinon, ce sera sans aucun doute Nicolas. Mais comme il a déjà eu deux points...
Non, ça ne se compte pas comme ça, surtout. S'il vous plaît, Dave, s'il vous plaît.
Bon, je vais trahir aux auditeurs d'Europe 1 qui est quand même assez intelligent pour comprendre que même une émission comme ça qui est totalement directe, il y a parfois des retouches grâce au miracle aujourd'hui de la technique. Et j'ai été très frappé par Anisset parce qu'il a quand même, avec une facilité rare, prononcé plusieurs fois une phrase. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut le soutenir, ce garçon. Et je vais donner mes 3 points à Anisset.
C'est Anisset qui remporte la compétition. Alors, on va préciser à nos auditeurs qui pourront entendre dès demain une sorte de moment mythique d'Anisset tentant
de prononcer
une phrase assez simple avec des verbes finalement assez simples puisque le temps est le présent en plus, donc on n'était pas au subjonctif imparfait. Vous entendrez ça demain. Effectivement, c'était un bon moment de bravoure pour Anisset, et grâce à ce côté comique, Anisset remporte l'émission aujourd'hui. Axel de Tarlé est dégoûté. Peut-être le mot d'Axel de Tarlé.
J'avais appris du hollandais, j'avais appris à dire thank you well, ça veut dire merci en hollandais, mais ça ne me sert à rien du tout.
C'est trop tard, c'était avant qu'il fallait le faire.
Ça ne me sert à rien.
Mesdames et messieurs, Anisset Mbida remporte la 16e édition de l'équipée sauvage avec l'irremplaçable. Dave était notre invité, Dave qui revient pour un nouvel album Souviens-toi d'aimer et qui sera en concert à Bobino le 18 novembre prochain. Merci Dave d'avoir joué le jeu pendant ces 2 heures.
Un plaisir.
Merci également à ma dream team de la rédaction d'Europe 1, Eva Roque, Anne Le Gall, Anis Mbida, Axel de Tarlé, Nicolas Carreau. L'équipe est sauvage, n'oubliez pas, c'est tous les jours 16h-18h sur Europe 1. Tout de suite, place à l'info avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du